va commencer. Oui, il y a un changement pour le cours d'évangélisation. Ça se passe dans la bibliothèque ou la locale de la chorale juste là, puisque le groupe était plus nombreux. Et puis, parce qu'il y avait de l'écho avec l'autre local. Alors, est-ce qu'il y en a qui cherchent où se déroule votre cours? Où ça va? OK. Pardon? Oui, c'est ça, je viens de dire. Le cours d'évangélisation se passe ici et ça va être là jusqu'à la fin de la session. Vous allez être plus confortable. Ça va être moins bruyant pour vous. Puis vous allez avoir plus d'espace. OK, alors ici, on est dans le cours d'histoire, survol d'histoire de l'Église. Vous avez des feuilles de notes sur les chaises de chaque côté, à hauteur de la colonne à peu près. Et ce matin, je termine la leçon de la semaine dernière et on entame celle de cette semaine. J'ai cette fâcheuse habitude de faire ça régulièrement. Est-ce que l'enregistrement est parti? Est-ce que vous savez si... OK. Merci. OK. Alors, on va dire un mot de prière, puis on va commencer. Évangélisation. Millennium, l'ancienne librairie. Stéphane, dans l'ancienne librairie, à côté du vestiaire. On va aller ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, nous voulons te remercier pour ce beau soleil à l'extérieur, Seigneur. Ça nous rappelle encore ce matin que tu es un Dieu fidèle qui pourvoit, qui prend soin. Tu t'occupes, Seigneur, de ta création et tu t'occupes, Seigneur, de ton Église, de chacun d'entre nous. Tu prends soin de nous chaque jour de notre vie, Seigneur, à travers les bons moments, à travers les épreuves de la vie. Tu es fidèle, tu es là, tu es notre sauveur, notre bien-aimé, notre cher Papa qui prend soin de nous. J'aimerais te demander ce matin de venir bénir ce temps d'étude, Seigneur, dans toutes les classes. Fais-nous grandir dans notre connaissance de ta parole, de ta volonté, dans la direction que tu veux apporter dans notre vie. Apprends-nous à évangéliser, apprends-nous à prier, Seigneur. Fais de nous des intercesseurs. Et ici, Seigneur, dans ce cours, aide-nous à avoir plus de discernement, plus de respect pour ce que tu as fait à travers les anges, une meilleure compréhension de l'Église, Seigneur. Parce que c'est important pour vivre l'Église maintenant, Seigneur. En respectant ce que tu es en train de bâtir, en honorant cela, en voyant, Seigneur, ta fidélité malgré tant d'errements de la part des hommes. Je prie d'être avec moi, Seigneur. Aide-moi à présenter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, sans la tronquer, sans la déformer. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, comme je mentionnais pour l'enregistrement, nous complétons la deuxième leçon. Et nous entamons la leçon 3 dans le cours « Survol d'histoire de l'Église ». Et simplement pour réviser très, très rapidement des petits éléments de la semaine dernière pour vous situer. La semaine dernière, on devait voir ensemble le développement de l'adoration dans ce qu'on appelle communément l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église des premiers siècles, d'accord? Pas parce qu'elle était primitive, dans le sens propre du terme. C'était l'Église du début. Alors, le développement de l'adoration, le développement du leadership, et puis, comment l'Église s'est organisée pour pouvoir défendre la foi contre les attaques qu'il y avait de l'extérieur. La semaine dernière, on s'est concentré essentiellement sur le développement de l'adoration et puis sur le développement du leadership, la formation du canon. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappellerait c'est quoi les trois tests que l'Église s'est donné pour reconnaître les textes inspirés ou non? Les tests de la canonicité. Pour le dire simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Un des trois, n'importe quoi. Alors que dans l'ensemble des églises, ces textes-là soient utilisés comme parole de Dieu. D'accord? C'est une manière de confirmer que c'était reconnu. Quoi d'autre? Un apôtre ou un proche des apôtres. D'accord? Qui devait être l'auteur. Et puis, troisièmement, non? T'as-tu levé la main, Claudel? Non? Non, OK, non. Il fallait que ce livre l'enseigne soit conforme avec l'enseignement des apôtres. Alors, il y a certains livres qui étaient très, très, très respectés. La semaine dernière, j'ai mentionné la Didachée, par exemple. Je vous ai lu quelques extraits de la Didachée la semaine dernière. Et la Didachée était respectée. C'était un manuel qui était utilisé, mais il n'était pas entièrement conforme à la saine doctrine. Et donc, il n'a jamais été reconnu comme un texte inspiré de Dieu. D'autres raisons aussi, on ne connaît pas son auteur. Mais donc, ça, c'était trois tests que l'Église s'est donné pour pouvoir reconnaître quels étaient les textes qui étaient les textes inspirés de Dieu. On a parlé la semaine dernière de la formation du canon, de l'époque à laquelle les 27 livres du Nouveau Testament ont été reconnus comme étant inspirés de Dieu. Comme je le mentionnais, très tôt dans l'histoire de l'Église, très très rapidement, les lettres de Paul ont commencé à circuler, elles étaient reconnues comme inspirées de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même témoigne à l'égard des lettres de Paul. Et donc, rapidement, elles se sont mises à circuler. À la fin du cours, la semaine dernière, j'ai essayé de clarifier quelque chose en vous apportant une citation de B.B. Warfield. Ça a pris environ c'est au 3e siècle, d'accord? Alors, mettons 250 ans, avant que les 27 livres soient reconnus comme les 27 livres inspirés. Là, je parle juste du Nouveau Testament. Rappelez-vous que l'Église croyait déjà dans tout l'Ancien Testament, le reconnaissant comme étant parole de Dieu. Puis ça a pris environ 250 ans avant que l'Église en général reconnaisse les 27 livres comme étant les livres inspirés de Dieu. Et ça peut être troublant pour nous parce qu'on se dit, oh boy, s'il est inspiré, il me semble que ça aurait été clair plus vite. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, d'accord? Alors, par exemple, la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, ben, je veux dire, il n'a pas mis ça dans le photocopieur après avoir terminé sa rédaction, envoyé ça dans tout l'Empire, puis dire, lisez ça, revenez-moi là-dessus la semaine prochaine par FedEx, on confirme que c'est un texte inspiré. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a envoyé sa lettre, il y a eu une copie, merci Seigneur, le protégé, qui s'est rendu à Éphèse. Éphèse l'a lu, on dit « Wow! » Puis là, à un moment donné, Jérusalem a entendu dire que Paul avait écrit une lettre à Éphèse. Et on dit « Ça nous prend une copie. » Là, on a commencé à faire des copies de la lettre de Paul aux Éphésiens, puis là, ça a commencé à circuler, d'accord? Alors, la citation de B.B. Warfield que je mentionnais la semaine dernière, c'est que M. Warfield nous aide juste à réaliser que quand le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, a eu terminé d'être rédigé, l'inspiration des Écritures était complète. Ça a pris du temps avant que toutes ces lettres-là circulent partout et que l'Église puisse les reconnaître. D'accord? C'est une nuance, parce que nous, on voit ça à notre époque. Là. Nous, on se dit, bon, ben regarde, je veux dire, tu lis la Bible puis tu reconnais les livres. Là. Non, mais je veux dire, juste ce recueil-là, ça n'a pas existé avant l'avènement de l'imprimerie. Là. D'accord? Juste savoir ça puis que tout le monde ait ça dans ses mains. Donc, c'était une autre époque et le processus était différent. Ce matin, je termine la leçon 2 en parlant juste en vous présentant quelques pères de l'Église. Il y a un groupe d'individus, en fait, quelques groupes d'individus qu'on appelle communément les pères de l'Église. On les appelle les pères de l'Église parce que c'est des hommes que Dieu a utilisés au début de la formation de l'Église de manière significative. On va parler généralement des pères apostoliques, c'est-à-dire ceux qui ont été proches des apôtres, qui ont connu les apôtres, qui ont été des disciples des apôtres. On va parler des pères apologètes, ceux qui ont défendu la foi. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Fait que les pères apologètes, c'est ceux qui se sont tenus à la barre puis qui sont allés défendre la foi, comme Tertullien, tout ça. Donc, je vais juste vous en présenter quelques-uns ce matin. Ça nous donne quand même un petit peu un feeling de l'époque, de l'histoire, de ce que ces gens-là ont vécu. Et peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de lire davantage sur eux si vous décidez de pousser un peu l'étude de l'histoire de l'Église. Chez les pères apostoliques, puis là, c'est là que j'ai quelques acétates, Nathalie. Ce ne sera pas long, on va arriver à Justin Martyr. Alors, Ignace d'Antioche. Les pères apostoliques, je vais vous en présenter deux ce matin. Ignace d'Antioche. Ignace était évêque à Antioche au début du 2e siècle. Il est mort martyr. Vous allez voir la majorité mort martyr. Là. C'était vraiment l'époque. On a encore aujourd'hui 7 lettres qu'il a écrites à différentes églises. D'accord? Alors ça, c'est intéressant là, parce qu'on est en train de parler de ceux qui étaient près des apôtres. On voit leur théologie, on voit leur foi, on voit leur compréhension du message de Jésus. C'est ça, il est arrêté. Et puis, lorsqu'on l'a conduit pour être jugé, condamné, tout ça, il s'est fermement opposé à ce que l'Église essaie de le défendre. Pour lui, il en allait de son témoignage à l'égard de Dieu, à l'égard de Christ, de simplement assumer ce que les hommes allaient décider. Et donc, il a refusé que l'Église essaie d'aller prendre sa défense. Puis effectivement, il est mort martyr en 117. Polycarpe de Smyrne. Polycarpe avait été un disciple de Jean. Alors, c'est tout un privilège. Moi, j'aurais aimé ça être à sa place. L'apôtre Jean, être le disciple de l'apôtre Jean. Polycarpe a été disciple de Jean. Ignace a adressé une de ses 7 lettres à Polycarpe, juste pour faire les liens un petit peu. Il était évêque, évidemment, à Smyrne, comme je l'ai mentionné. Il a écrit plusieurs lettres. On a juste une de ses lettres, par contre. D'accord? Mais d'autres mentionnent qu'il avait envoyé des lettres, tout ça. On a juste une de ses lettres. C'est la lettre qu'il a écrite à l'église de Philippe. Lui aussi est mort martyr. Quelques-uns des pères apologètes, et là vous allez voir un peu comment ils défendaient la foi, tout ça. Puis vous allez voir aussi comment ils ont, ils ont commencé à dévier, ils ont commencé à dérouter. Il y a des histoires un peu tristes parmi les pères apologètes. Mais le christianisme était, avec le judaïsme, assez unique, parce que le judaïsme et le christianisme faisaient la promotion d'un seul Dieu. D'accord? C'était le monothéisme. Et ça avait beaucoup de, j'ai juste un terme en anglais, l'attraction, mais ça attirait beaucoup l'attention des gens, le monothéisme, par opposition au polythéisme qu'on trouvait chez les Grecs, chez les Romains, puis qui était un petit peu comme farfelu, un peu ridicule, tout ça, parce que quand vous commenciez à connaître ces divinités-là, vous vous rendiez compte que c'était des soap operas, là, tu sais, c'était des téléromans, ces affaires-là. Il y en a un qui a eu une aventure avec un autre, puis qui a voulu se venger de l'autre, puis finalement, ils étaient plus humains que des humains. Et lorsque ce monde-là, l'Empire romain, le monde païen a commencé à découvrir le judaïsme, ils ont été attirés par ce Dieu qui est entièrement vertueux, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est créateur des hommes, mais qui n'est pas rempli d'hommerie comme nous autres on l'est. D'accord? Et le christianisme présentait le même Dieu avec une dimension de plus, c'est l'humanité de Christ, Fils de Dieu qui vient sur la terre. D'accord? Alors, les pères apologètes n'ont pas eu à se battre énormément avec les religions polythéistes. Le christianisme avait beaucoup d'attrait par lui-même parce qu'il présentait un Dieu saint, juste, droit, vertueux. En plus de ça, l'œuvre de Christ à la croix. Mais ils ont eu beaucoup à combattre avec des fausses doctrines qui sortaient de l'intérieur de l'Église. Et ils ont eu beaucoup à débattre avec des philosophes. Et donc, plusieurs des pères apologètes sont allés soit puiser dans la philosophie pour pouvoir démontrer comment le christianisme était supérieur à la philosophie ou accomplissait, continuait à donner des réponses là où la philosophie s'arrête. Moi, ça a été mon cheminement. Lorsque j'étais au cégep, je me suis intéressé à la psychologie. La psychologie, je l'ai trouvée insatisfaisante parce qu'elle s'attaque surtout au comportement. On cherche à comprendre les comportements, mais on ne cherche pas nécessairement à avoir un sens moral à travers ça. Je me suis intéressé à la philosophie. La philosophie pose des questions, je ne cherche pas nécessairement à apporter des réponses. On reste dans des hypothèses. Et ça fait partie de mon cheminement pour dire non, c'est vraiment le christianisme qui m'apporte les réponses, qui explique toute ma vision du monde. Et donc, ils ont cherché à aller rencontrer les philosophes là où ils étaient, puis apporter des réponses plus complètes encore. D'accord? Parfois, à leur péril, parce qu'ils ont voulu commencer à philosopher plutôt qu'à enseigner la parole. On va le voir ensemble. Bon, évidemment, les philosophies de l'époque, les épicuriens, les stoïciens, les platoniciens, les aristotéliens. Là, après ça, il y a à côté de ça les mouvements qui étaient plus mystiques, comme les gnostiques, puis tous les mouvements mystiques à côté. Si ça vous tente juste de vous allez cet après-midi sur Wikipédia, puis vous décidez que vous faites votre petite recherche pour chacun d'entre eux, vous allez avoir un paragraphe qui va vous définir en gros ce que ces différentes philosophies-là promettaient. Justin Martyr. On a une belle photo de Justin Martyr. Chic type. Justin, le plus connu des pères apologètes, était un philosophe païen. Et puis, il s'est converti en 132 en discutant avec des chrétiens. Il était très impressionné par les martyrs chrétiens. Ça venait le chercher dans ses questionnements, dans ses propositions qu'il y avait avec la philosophie. Puis, il se disait, il y a probablement plus que ça par la vie de ces gens-là, par leur manière de mourir, leur courage, tout ça. Et il était très impressionné par le raisonnement de la foi chrétienne. Il trouvait que cela faisait énormément de sens. Et donc, après avoir discuté avec un chrétien à un certain moment donné, il s'est rangé derrière le christianisme et il s'est converti. Dans son cheminement à lui, là je vais apporter un élément que vous connaissez, vous êtes peut-être pas très familier. Qui a déjà entendu parler du Logos dans Jean? Si je parle le Logos dans l'Évangile de Jean. La parole, OK? Quand dans l'Évangile de Jean, Christ nous est présenté comme la parole, d'accord? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous me suivez là-dessus? Jean 1:1. Le terme grec qui est là, c'est le Logos, d'accord? Puis Jean fait quelque chose de... au niveau de la révélation, Jean nous révèle un aspect du ministère de Christ comme il n'a jamais été révélé avant dans toutes les Écritures, d'accord? Lorsque vous entendez, par exemple, dans des enseignements, on va dire, bien, est-ce que Christ était là à la création? Oui, parce que Dieu a créé par sa parole et Dieu ne fait rien sans faire par sa parole. Mais c'est Jean qui nous dit tout ça dans Jean 1, d'accord? Chez les philosophes grecs, il y avait cette notion-là du logos, et je vais essayer de le résumer comme ça simplement. Là. Le logos, ce serait le principe fondateur de toute chose. Le principe qui tient toute chose. C'est plus une idée qu'une personne, mais ce serait un principe qui ordonnerait toute chose, d'accord? Platon a beaucoup développé ça, cette notion-là du logos. Alors, ce que lui a fait, Justin Martyr, c'est qu'il a dit, ben voilà, je vais vous le présenter, qui est le principe fondateur de l'univers. C'est une personne. C'est la parole de Dieu. C'est Christ, c'est Jésus-Christ. Alors, volontairement, il est allé prendre ce concept-là qu'on trouvait chez les philosophes, puis il a dit, je vais vous le présenter. Vous avez imaginé qu'il y avait un principe fondateur à l'univers? C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas faux. C'est pas faux, d'accord? Maintenant, vous allez voir tantôt, il y en a qui ont erré avec ça. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou... Vous êtes dans un cours de cégep super plate, là. Ça va? Oui. Je pense... Ouais. Je pense pas que c'est juste ça. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais il va le faire là, puis on va retravailler sur ça dans ses épîtres. D'accord? Fait que c'est sûr que c'est Jean qui nous a le plus équipés pour répondre à ces choses-là. Ça, c'est clair. OK. Alors, lui aussi, Justin Martyr est mort martyr, en 165, décapité, après avoir eu un débat avec un philosophe. D'accord? Comme je vous dis, jusqu'à ce qu'on arrive à Constantin, l'Église n'est pas légale. Le christianisme, c'est pas quelque chose de légal. Alors, si sur la place publique, un père apologète décide d'aller débattre avec des philosophes, il s'agit juste que la foule s'emporte, que le gouverneur sur place appuie, puis pouf, il y a une tête qui vient de tomber, d'accord? Ils n'ont pas de droit défendable. Si vous vous attaquez à des chrétiens ici au Québec, puis que vous décidez de lapider un chrétien, et vous allez finir en cour. Vous allez finir en cour, on est ici, on n'est pas en Égypte, par exemple, d'accord? Mais on est au Québec. Bon, bien, c'est ça. Justin Martyr, Athénagore d'Athènes. Athénagore débattait avec les philosophes et l'approche que lui avait prise, qui était un petit peu mon cheminement à moi par rapport à la foi, Athénagore, lui, il défendait que la révélation qu'on a à l'intérieur des Écritures est supérieure à la philosophie parce qu'elle nous donne des réponses qui viennent de Dieu, elle nous donne des réponses absolues. On ne reste pas dans les spéculations, on s'en va vers des certitudes qui expliquent, comme je disais, mieux le monde que simplement émettre des hypothèses. Et donc, lui s'est appliqué à démontrer que les Saintes Écritures, comme textes inspirés de Dieu, sont supérieures à toute philosophie parce qu'elles nous font connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu croit, ce que Dieu enseigne, ce que Dieu a fait, d'accord? Alors, lui, il a moins développé cette question-là du Logos. Évidemment aussi, comme je le mentionnais tantôt, mais il en a profité aussi pour comparer le Dieu des chrétiens avec le Dieu des Grecs et démontrer la supériorité du Dieu vertueux de la Bible avec les pseudo-dieux des Grecs qui font beaucoup de niaiseries. Alors c'est ça, il affirmait que le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui a une stature de Dieu. Puis dans le fond, je veux dire, lorsque vous lisez les histoires de toutes les divinités grecques puis tout ça, puis après ça, vous allez vers les Écritures, vous dites, OK, si Dieu existe, je veux qu'il ressemble à ça. Là. Je veux pas qu'il ressemble à ça. veux pas qu'ils ressemblent à toutes ces espèces de divinités-là qui sont en train de se chamailler tout le temps. Mais je lisais par contre que Athénagore a parfois justement erré en voulant tellement répondre aux philosophes qu'il en venait à comme à mettre de côté le fait que Dieu est une personne, puis il restait plus au niveau du débat philosophique. Et ça revient un petit peu à des fois lorsqu'on cherche à faire de l'évangélisation. Je ne sais pas si au cégep vous avez eu des bonnes discussions quand vous étiez au cégep, à l'université. Puis moi personnellement, je suis tombé dans le panneau des fois de dire ben la foi chrétienne, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable. Et donc, je vais leur démontrer que c'est absolument raisonnable. Même s'il y a une part de foi, dans mon esprit, c'était clair qu'eux autres aussi avaient beaucoup de foi dans tout ce qu'ils croyaient. Et donc, je vais leur démontrer que ma foi était plus raisonnable que leur foi. Puis, des fois, je suis tombé dans le panneau d'aller justement dans l'argumentation pour montrer que c'était raisonnable en oubliant de me concentrer sur présenter une personne. Présenter une personne qui a accompli une œuvre à la croix. D'accord? Et donc, présenter Dieu comme une personne, Dieu qui a envoyé son Fils, une personne, et une relation dans laquelle on doit entrer. Ni Christ, ni Paul, ni les auteurs du Nouveau Testament se sont appliqués outre mesure à démontrer que la foi chrétienne est raisonnable. D'accord? Ils ont appelé les gens à entrer dans une relation avec Dieu, à se réconcilier, puis ils ont démontré le bien fondé de ça. Mais c'est ça, Athénagore est tombé dans ce panneau-là parfois, présentant plus Dieu comme un principe que comme une personne. Irénée de Lyon, Irénée a été formé par Polycarpe, il a été nommé évêque de Lyon en 177, il s'est beaucoup attaqué au gnosticisme. Si vous avez fait un peu de philo, vous avez rencontré ça, ces idées-là, le gnosticisme. La gnose, c'est l'idée par laquelle, dans une révélation, tu peux saisir une vérité qui n'est pas vraiment définissable, qui n'est pas vraiment explicable, mais que tu ne pourras pas transmettre à travers des mots, mais qui vient te faire comprendre le sens de toute chose. C'est assez mystique comme concept, la gnose. Et Irénée s'est beaucoup attaqué au gnosticisme. Le gnosticisme a essayé, mais il y a des gens qui sont sortis de l'Église et qui ont adopté le gnosticisme. Et donc, le gnosticisme a été parfois associé avec le christianisme. Les gens pensaient que c'était la même chose, tout ça, parce qu'il y a cette idée d'une révélation à travers la personne de Christ. Et Irénée a beaucoup travaillé pour démontrer que c'était pas le cas. Il a affirmé que la révélation des Saintes Écritures, l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, et donc il a voulu affirmer qu'on peut connaître Dieu à travers les Écritures. La gnose, puis toutes les expériences mystiques, puis des fois, je vais vous donner une application pratique de ça. Des fois, vous allez rencontrer des gens, puis ils vous parlent de comment ils ont connu Dieu à travers une expérience. D'accord? Puis là, vous dites, OK, tu connais Dieu à travers une expérience, c'est sûr, parce que l'Esprit de Dieu est là. Donc, je veux dire, c'est aussi une expérience connaître Dieu, c'est pas juste de l'information sur Dieu, c'est une rencontre avec une personne, j'ai une expérience. Mais ces gens-là vont définir... comme l'élément marquant de leur connaissance de Dieu, c'est l'expérience qu'ils ont vécue avec Dieu. Bon, mais par exemple, ce frère-là s'est appliqué à dire, non. Tu connais Dieu d'abord et avant tout par la révélation qu'il te donne à travers ses Écritures. Et donc, on peut connaître qui il est en écoutant ce qu'il a à nous dire sur lui, en l'écoutant se révéler à nous. Si je rencontre Gérard, puis je ne l'écoute pas. Mais je le regarde aller, puis oh, je trouve ça fascinant, tout ce qu'il est comme personne. Je ne l'écoute jamais, mais je le lis à travers mes lunettes à moi, puis je dis, ouais, c'est tout un bonhomme, ce gars-là. Puis après ça, Gérard s'en vient, puis il m'écoute, tu sais, je parle avec David, puis je parle de Gérard, puis j'explique Gérard comment est-ce qu'il est. Puis Gérard réalise que je ne l'ai jamais écouté. Mais j'ai vécu quelque chose parce que j'ai rencontré un gars fantastique, tu sais, puis je parle de lui. Ça se peut très bien que Gérard, à un moment donné, me dise, mais regarde, c'est parce que si tu veux me connaître, tu vas te taire, tu vas m'écouter. Je vais te dire qui je suis. Puis après, tu commenceras à interpréter à travers ce que je vais te dire, qui je suis. Bon, ben, c'est un petit peu la même chose ici. Est-ce que je vais vivre une expérience avec Dieu, puis cette expérience-là va définir qui est Dieu? Ou est-ce que je vais vivre une expérience avec Dieu à travers la révélation que Dieu m'a donnée de sa personne dans sa parole? Et clairement, le christianisme, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Alors, toute expérience que je vais vivre comme chrétien doit être évaluée à la lumière de la parole de Dieu et les plus grandes expériences que je vais vivre dans ma connaissance de Dieu doivent venir de la parole de Dieu parce qu'il s'est révélé à nous. C'est comme si moi je disais, je suis marié avec une femme. Des fois, vous voyez des gens qui ont comme des espèces de fantasmes. Ils sont avec quelqu'un, tout ça. Puis moi, je vous parlais d'une femme extraordinaire. Je suis marié avec Esther, tout ça. Puis elle est géniale, tu sais, mais Dans les faits, je ne m'assois jamais avec elle. Je ne parle jamais avec elle. Je ne l'écoute pas. Je vis une espèce de vie idéalisée d'une relation que j'aurais eue avec cette femme-là, mais dans le fond, on n'est jamais ensemble pour se parler. D'accord? Juste pour faire une application pratique de cette idée que Dieu s'est révélé à travers sa parole, et c'est à travers sa parole que je vais le rencontrer, que je vais le connaître. Par exemple, lorsqu'on dit, une autre application, lorsqu'on dit que Dieu nous parle à travers la prière, Dieu peut nous parler à travers la prière en nous impressionnant avec un passage des Écritures. Dieu peut me parler à travers la prière où à un moment donné, je suis en train de prier, puis je réalise, je vois un péché dans ma vie, puis je dis, Seigneur, j'y avais pas pensé, je l'avais pas réalisé, tu sais, puis... Et donc, je pense que c'est adéquat de dire que Dieu est en train de me parler à travers la prière. Mais je dois reconnaître aussi que je suis en train de rentrer sur un terrain très, très, très subjectif. Parce que, je veux dire, chacun d'entre nous ici, on a vécu des expériences. Quelqu'un est venu nous voir, puis il m'a dit, Dieu m'a dit que tu diras de me lâcher un coup de fil. C'est moi ça qu'il me le dise à moi. Fait que Dieu nous parle premièrement à travers sa parole. Premièrement. Dieu nous parle à travers des désirs qu'il place sur notre cœur, qu'on va aller évaluer à la lumière de sa parole. Dieu nous parle à travers des frères et sœurs qui viennent nous voir, puis on va dans les Écritures, on va dans la prière, puis oui, je pense que ça vient du Seigneur, tout ça, c'est clair. Dieu veut ça, je le vois dans mon cœur aussi. Dieu va nous parler comme ça. Il peut nous parler à travers des non-chrétiens aussi, à travers des circonstances. Mais il nous parle premièrement à travers ses Écritures. D'accord? Et un chrétien qui ne va pas se nourrir régulièrement de la parole, puis qui va avoir l'impression que Dieu lui parle constamment, c'est pas comme ça que Dieu a décidé de se révéler. Dieu nous a écrit une lettre pour qu'on puisse aller le rencontrer. Bon, bien, vous allez rencontrer des gens qui ont une foi un peu mystique. C'est pas des gnostiques, appelez-les pas des gnostiques, mais ils vivent des expériences avec Dieu, puis c'est là que Dieu leur parle. Et je l'ai vécu ici dans l'Assemblée une fois, il y a une jeune fille qui est arrivée. J'ai eu une longue conversation avec elle, puis elle est en train de me parler de Dieu, puis à un moment donné, je l'ai arrêtée, puis je dis... Là, j'ai un petit problème, par exemple, là, parce que ce que tu es en train de me dire est clairement en opposition avec la parole de Dieu. Fait que c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Et puis, je veux dire, ça a duré 5 minutes, la conversation. On n'a jamais pu avancer parce qu'elle m'a dit, regarde, moi, je sais que Dieu m'a dit ça. Tu ne pourras rien faire qui va me faire bouger de là. Elle venait d'une assemblée évangélique, là, d'accord? Dieu lui avait dit quelque chose qui était contraire avec la parole de Dieu. OK? Qu'on n'a pas pu ouvrir les Écritures pour aller voir ça. Ça venait pas de Dieu, c'est pas vrai. C'est, disons, des parallèles un peu qu'on peut faire. Quelques-uns des pères apologètes. Nathalie, tu peux arrêter les acétates si tu veux réviser tes trucs, parce que je vais être un petit peu plus long. Quelques-uns des pères apologètes. Tertullien de Carthage. Là, je vais vous présenter quelques pères qui ont fait énormément de bien à l'Église et qui, Tertullien a mal terminé, Origène a mal terminé, Clément d'Alexandrie est resté dans la foi, mais a enseigné des choses bizarres. Les 4 derniers là, que je vous présente, là, c'est triste. Puis Tertullien, c'est le plus triste parce que ça a été un des hommes qui a le plus défendu le christianisme. Sa plus grande œuvre, ça s'appelle Apologie, c'est majeur. Tertullien est un des pères de l'Église qui nous a donné le plus de langage pour la théologie, c'est lui qui a utilisé pour la première fois le terme « trinitas », d'accord, pour la Trinité. Vous ne trouvez pas le mot « Trinité » dans la Bible? Puis nous, on parle de Dieu comme étant la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est Tertullien qui a sorti ce mot-là, « trinitas », pour dire « la Bible nous révèle un Dieu qui est en 3 personnes et qui est pourtant une personne, qui est en 3 personnes, mais qui est une substance même. C'est pas comme 3 personnes qui seraient faites de la même matière. C'est une même matière, puis il y a 3 personnes dedans. Et il a sorti le mot « trinitas » pour essayer de résumer cette notion-là du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La nature de Dieu comme une substance en 3 personnes. Comme je vous dis, il a énormément défendu la foi. C'est de lui la citation que je vous avais donnée lorsqu'il dit « Chaque fois que vous mettez à mort des chrétiens, notre sang est une semence de chrétiens. » Vous vous rappelez? C'est Tertullien qui a dit ça. Alors, il a écrit à l'empereur. Oui. Ça se peut. Il semble que c'est Tertullien qui l'a sorti en premier. Ouais. Tu sais, quand? Je pourrais vérifier, mais Tertullien, il semblerait que c'est lui le premier qui a apporté le terme. Trinité. Malheureusement, dans son parcours, éventuellement, Tertullien s'est joint au mouvement montaniste. Le montanisme, c'est un mouvement qui est sorti de l'Église, d'accord, au 2e siècle, qui a été fondé par Montanus. Et ce mouvement-là croyait qu'ils avaient des nouvelles révélations, des expériences prophétiques, des autorités parallèles à l'autorité des Saintes Écritures. Et Tertullien, éventuellement, a été excommunié de l'Église. Puis pourtant, il a fait énormément de bien. Puis vous avez connu des gens comme ça, déjà, si ça fait 20 ans que vous êtes chrétien, vous avez vu des gens faire tellement de bien à l'Église, des fois des pasteurs, puis à un moment donné, d'accord? Il faut vraiment regarder au Seigneur. Clément d'Alexandrie a cherché à réconcilier la philosophie et le christianisme, et malheureusement, Clément d'Alexandrie a inventé le purgatoire comme un lieu de purification de l'âme. Donc, c'est loin. D'accord? C'est pas une des doctrines catholiques qui est récente. C'est une des doctrines catholiques qui est très ancienne. Et puis, il faisait une lecture très, très allégorique de la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'une lecture allégorique de la Bible? C'est ça, je vais laisser quelqu'un peut-être donner un exemple. Est-ce que quelqu'un qui vous avez déjà entendu parler des exemples de lecture allégorique de la Bible? C'est quoi une allégorie? C'est une image. Alors, par exemple, une lecture allégorique de la Bible, une classique qu'on donne, c'est le Bon Samaritain. Puis, une allégorie, c'est une image. C'est lire un texte qui a un sens littéral, d'accord, qui est clair au premier sens, puis commencer à spéculer puis à imaginer un sens à chaque détail, par exemple. Et ça va être une allégorie. Alors, par exemple, avec la parabole du bon samaritain, commencer à attribuer un sens aux pièces de monnaie qui ont été utilisées, attribuer un sens à l'âne qui a transporté celui qui avait été battu. Cette âne-là représente peut-être l'Église du 2e siècle, par exemple. Puis, ça, c'est de l'allégorie, d'accord? Puis, on commence à... Et donc, ceux qui ont fait ça, voici comment ils approchaient les Écritures. Ils disaient, tu lis les Écritures, puis tu trouves le premier sens des Écritures. Ça, c'est celui que tu trouves quand tu lis le texte normalement. Tu lis le journal, ça dit qu'il y a eu un accident de voiture au coin de Gentilly, puis Roland Thérien. Ça veut dire qu'il y a deux autos qui ont été impliquées. C'est ça que ça veut dire. Deuxième sens, le sens spirituel. Bon, le sens spirituel, c'est que peut-être il faut faire attention dans la vie parce que tu sais pas quand est-ce que tu pourras avoir une épreuve, tu sais. Peut-être c'est ça. Un troisième sens, j'oublie celui-là, je m'excuse, je pense avoir vers la philo. Puis un quatrième sens qui est le sens allégorique, qui est peut-être en train de nous annoncer, par exemple, qu'il y a deux églises qui sont tout proches, puis peut-être qu'elles vont entrer en collision. D'accord? N'importe quoi. D'accord? Fait que ça, c'est de l'allégorie. Ça, c'est de l'allégorie. Alors, il faisait beaucoup de lectures allégoriques de la Bible, ce qui fait qu'il peut lire une parabole puis il peut nous trouver le purgatoire là-dedans, par exemple. D'accord? Et malheureusement, au niveau des pères de l'Église, on en a quand même plusieurs exemples, là. Et donc, il y en a qui faisaient comme deux puis trois lectures des textes. Origène d'Alexandrie, qui était disciple de Clément, a été évêque d'Alexandrie. Il est né en 185. Il a écrit énormément. Par exemple, un ouvrage intéressant qu'il a fait, c'est qu'il a pris 5 traductions grecques de l'Ancien Testament. Comment on appelle la traduction grecque de l'Ancien Testament? La Septante. D'accord? Alors, la Septante a été produite assez tôt parce que les Juifs étaient un peu partout répandus avec les exils. Et donc, les Juifs ne parlaient pas tous l'hébreu. Et on s'est mis à faire une traduction en grec du texte de l'Ancien Testament pour que ces Juifs-là puissent lire l'Ancien Testament. Origène a pris 5 traductions grecques de l'Ancien Testament et il les a mis en parallèle pour pouvoir les comparer et voir si on était fidèle avec les textes hébreux. C'était quand même tout un travail pour l'époque, là. Il n'a pas fait ça avec un ordinateur. Il a fait un premier effort pour rédiger une théologie systématique. Qu'est-ce que c'est une théologie systématique? On place un peu de termes de théologie, là. C'est quoi une théologie systématique? Ça vous dit rien? Oui. OK. Alors, la Bible, je vais répéter ce que vous avez mentionné, mais la Bible, c'est pas une encyclopédie. Si je vous demande, donnez-moi une définition de Jésus, à quelle page on tourne? Je voudrais avoir une définition de Jésus. C'est complète. Il n'y a pas de page pour tourner. Donnez-moi une définition du péché. Mais ce que vous allez faire, c'est que là, il y a des versets qui commencent à venir à votre esprit. Puis là, vous dites, ben le péché, c'est ça ici. Puis, ben je pense qu'il faudrait que j'aille dans Genèse pour comprendre c'est quoi le péché. Puis il faudrait probablement que j'aille à la croix aussi pour comprendre c'est quoi le péché. Il faudrait aussi que j'aille dans l'Apocalypse pour être vraiment certain que je comprends jusqu'où ça peut mener le péché. Et donc, c'est quelque chose qui mérite une condamnation éternelle. Puis là, je m'en vais partout dans les Écritures parce que la Bible, ce n'est pas une encyclopédie avec des entrées par sujet. D'accord? C'est une lettre que Dieu, c'est plusieurs lettres que Dieu a écrites aux hommes sous différentes formes. Des fois, c'est poétique. Des fois, c'est des récits d'histoire, l'histoire d'Israël. Des fois, c'est des récits plus historiques comme on a dans les évangiles. Des fois, c'est un style apocalyptique comme le livre de l'Apocalypse. Une théologie systématique va identifier c'est quoi les sujets principaux de la Bible? Dieu, la révélation, l'homme, dans les personnes de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le péché, le salut. Et puis, va chercher à étudier dans toutes les Écritures qu'est-ce que les Écritures nous disent sur ce sujet-là. Là, on va essayer de faire une synthèse de ça pour résumer ça. D'accord? C'est extrêmement précieux. Une fois que tu as essayé de comprendre qui est Dieu, après ça, tu vas aller essayer de comprendre c'est quoi le péché. Puis là, tu vas dire, OK, je saisis qui est Dieu, je pense que je saisis c'est quoi le péché, je vais mettre ces deux doctrines-là côte à côte maintenant. Qu'est-ce que la doctrine du péché m'aide à comprendre sur la personne de Dieu? S'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que ça ne reflète pas vraiment ce que les Écritures disent, par exemple, si ma compréhension de Dieu disait « Dieu est amour », ce serait vrai, ce ne serait pas complet. Quand je vais avoir terminé d'étudier la doctrine du péché, je vais dire « Oh, Dieu est amour, Dieu est juste ». Puis là, je vais continuer à étudier la doctrine du salut, « Dieu est miséricorde ». D'accord? Ça, c'est une théologie systématique. Et c'est important. Il est le premier Origène d'Alexandrie à avoir fait l'effort de produire une théologie systématique. On en fait constamment, d'accord? Plus vous lisez la Bible, plus votre théologie systématique à vous, personnelle, est en train de se développer. Puis si je vous pose des questions, vous allez me donner des résumés qui viennent de plein de versets, mais ça va être votre définition d'une question biblique, d'accord? Et puis, malheureusement, Origène d'Alexandrie éventuellement a été emporté par la philosophie. Et puis, l'Église en est venue à l'excommunier parce qu'il a terminé sa vie en enseignant la réincarnation, la préexistence des âmes et le salut universel. D'accord? Tout le monde est sauvé parce que Dieu est bon, en définitive. Et pourtant, il a fait beaucoup de bien pour l'Église. C'est tout un avertissement pour nous. Restez attachés à la parole de Dieu puis marchez humblement jusqu'à la fin. Un dernier, Cyprien de Carthage. Cyprien était un homme extrêmement riche. Il s'est converti en 246. Cyprien va insister sur l'unité de l'Église très, très, très fortement. Puis malheureusement, il va commencer à mettre en place quelque chose qui va nuire beaucoup dans les siècles qu'on va voir maintenant. L'unité de l'Église à travers une Église mère, Rome. D'accord? Alors, l'idée qu'il n'y a point de salut à l'extérieur de l'Église, ça vient de lui. D'accord? Et donc, il fallait que tout soit cohérent et ce n'était pas des églises locales qui sont autonomes, c'est une Église qui va être dirigée par une personne éventuellement. Et cette phrase-là, « Hors de l'Église, point de salut », ça nous vient de lui. Il est mort martyr lui aussi en 258. Puis on va arriver à Constantin. Puis on va commencer avec Constantin. Donc, si je fais juste un résumé de ces trois siècles-là, ce sont des siècles où l'Église est persécutée. Il y a des moments où, si les persécutions avaient continué encore un petit peu, on aurait l'impression que l'Église aurait disparu complètement. Puis Dieu a décidé que les persécutions arrêtaient, puis pouf, l'Église florissait encore. Ces trois siècles-là, c'est une période où l'Église n'est jamais légale. C'est jamais. Je ne parle pas d'une religion d'État, je parle d'une religion acceptée. D'accord? Le christianisme n'est jamais religion officiellement acceptée pendant toute cette période-là. Alors, dépendamment des régions où est-ce qu'on est, dépendamment des époques, on est underground ou on est plus public. D'accord? Pendant un temps, ça peut bien aller pendant 50 ans dans une province. Les chrétiens commencent à dire publiquement qu'ils sont chrétiens, peut-être même s'acheter un bâtiment, un terrain, tout ça. Oups, il y a un nouveau gouverneur qui vient, il s'en va solliciter les chrétiens pour pouvoir avoir son appui. Eux autres décident de ne pas l'appuyer parce que l'homme n'est pas moral. Fait raser les bâtiments, fait enfermer tout le monde. D'accord? Ça, c'était ces trois siècles-là. Pendant ces trois siècles-là, les Saintes Écritures ont été rédigées, ça s'est terminé vers 90 environ. Les Saintes Écritures ont été rédigées, elles ont commencé à circuler. indépendamment les 27 livres du Nouveau Testament à travers les églises les ont progressivement reconnus comme les textes inspirés de Dieu, en ont rejeté d'autres. On a parlé de l'évangile de Thomas, l'évangile de Jésus, d'accord, la semaine dernière. Vous pourrez aller écouter l'enregistrement de la semaine dernière. Mais on a dit non, c'est pas conforme aux Écritures, c'est clair, ça vient pas d'un apôtre ou d'un proche des apôtres. Et donc, on a rejeté ces textes-là. Et puis, ils ont reconnu les 27 livres qui, lorsqu'on arrive à la fin de cette époque-là, sont reconnus avec la même autorité que l'Ancien Testament. D'accord? Et donc, pour nous, le Nouveau Testament a la même autorité que l'Ancien Testament. Oui, Wemba. C'est une bonne question. En fait, je vous dirais, pour la période des trois premiers siècles, il n'y a pas grand-chose de scandaleux que l'Église a fait. Vous n'avez rien vu encore. Ça s'en vient. L'Église va devenir une institution, elle va devenir religion d'État, et là, on va commencer à faire beaucoup de mal au nom de l'Église. Mais la question demeure bonne. Dans la période des trois premiers siècles, ce qu'on voit plus, c'est un certain nombre d'individus qui, après avoir défendu une foi orthodoxe conforme aux Écritures, après ça, ont erré. Mais l'Église n'était pas dans une position où elle aurait pu, par abus de pouvoir, faire du mal à la population, par exemple. Elle n'a pas de pouvoir, l'Église, jusqu'à ce que Constantin déclare être chrétien. Maintenant, lorsqu'on regarde toute l'histoire de l'Église, il y a plein de moments, justement, où l'Église est décevante. Puis, je veux dire, jusqu'à l'histoire récente, et par la grâce de Dieu, je ne ferai pas partie des mauvaises histoires, Yannick Etier comme pasteur, mais qui sait, peut-être, on ne sait pas, d'accord? C'est ça l'histoire de l'Église. Et c'est pour ça qu'on dirige vers les Saintes Écritures, premièrement. On dirige les gens, premièrement, vers Jésus-Christ. Là, c'est si je parle avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. D'accord? Je vais le diriger premièrement vers les Saintes Écritures, puis je vais lui dire, si tu vas vers la parole de Dieu, excusez. Si tu vas vers la parole de Dieu, tu n'auras pas ces déceptions-là que tu vas avoir dans ton rapport avec les hommes, puis en lisant l'histoire de l'Église, par exemple. Tu ne vivras pas ces déceptions-là parce que Dieu est saint. Maintenant, lorsque je vais parler avec quelqu'un qui est dans la foi puis qui commence à être troublé avec tout ça puis se poser des questions puis il dit « Ouais, mais Dieu, est-ce qu'il est si grand que ça? » Parce que la première fois que tu lis l'histoire de l'Église, il y a des moments glorieux puis il y a d'autres moments où tu dis « Boy, Seigneur, il me semble que c'était pas le temps que tu pars. Tu sais, reste là. Faites quoi? Dirige-nous parce que c'est pas drôle. Mais honnêtement, premièrement, Christ nous avait annoncé ça. L'Église que vous voyez à travers les siècles est vraiment pas différente de l'Église du Nouveau Testament. La première chose que je dis aux gens quand les gens viennent me voir, puis ils me disent « Yannick, je trouve que l'Église ne va pas bien », tu sais, puis je vous dis « C'est décevant, l'Église. » La question que j'ai dans ma tête, c'est « Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible, toi? » Parce que si tu lis le Nouveau Testament, là, va-t'en lire Corinthiens, il y a des bons livres pour te remettre en question dans ce sens-là. Fais juste regarder les apôtres, excusez-moi, mais ils étaient de Taouin, là, tu sais, n'importe quoi, des fois, là. Fait que, alors, c'était comme ça du temps de Jésus. Jésus en avait 12, il en a perdu un, puis les autres, ils n'étaient pas drôles des fois. Fait que c'était ça, et c'était ça après. Donc, Christ ne nous a jamais promis qu'on allait arriver à une étape où l'Église allait être glorieuse sur terre sans faute ni tâche. Maintenant, ça, c'est ce que je dis à un chrétien. C'est pas ce que je veux dire à un non-chrétien, parce que ça demande déjà de croire beaucoup pour accepter toutes ces idées-là. Mais avec un non-chrétien, je vais plutôt le diriger vers les Saintes Écritures, vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et s'il veut questionner l'histoire de l'Église, je vais la survoler plus rapidement pour montrer qu'à travers toutes les hommeries de l'Église, qu'on a trouvées dans l'Église, Dieu a préservé. Dieu a préservé sa parole de manière extraordinaire. Dieu a préservé son Évangile. C'était perdu avant la Réforme. L'Évangile était tellement obscurci, là. C'était vraiment difficile de voir comment les gens pouvaient venir à la connaissance de l'Évangile avant la Réforme, suite au Moyen Âge. C'est terrible, vous allez le voir là, dans l'histoire de l'Église. Mais Dieu, majestueusement, a fait éclater des balises dans cette institution-là. Et pouf, l'Évangile est ressorti, puis on a vu des réveils extraordinaires. Alors, je vais plus survoler rapidement l'histoire de l'Église. pour montrer que Dieu est fidèle à travers les siècles. Et simplement dire, regarde, les sociétés, 10 fois, 20 fois, se sont jurées et ont eu la conviction qu'ils allaient éliminer le christianisme. On en a plein. Je veux dire, Karl Marx, c'est le dernier, là. Mais c'était clair, on élimine ça, cette affaire-là. L'humanisme va venir effacer le christianisme. Le christianisme prospère actuellement sur la terre comme jamais dans son histoire. C'est ça la vérité. Et même si nous, on est en Occident, puis on a l'impression, ouf, ça a de la mort, cette affaire-là. Lisez les journaux comme il faut, vous allez voir, les gens vont le dire. L'athéisme ne répond pas aux besoins de l'homme. C'est clair. Et puis, oups, là, tu vois que le christianisme, les journalistes viennent nous voir, ils veulent comprendre pourquoi nous, on implante des églises. Mon frère est en train d'implanter à Rivière-du-Loup. Les journalistes sont allés le voir. Expliquez-nous, M. Étier, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que votre église est en croissance? Ils veulent comprendre. Fait que ce témoignage-là, dans l'ensemble de l'histoire, est quand même puissant. Mais la première chose à dire, c'est on est des pécheurs et il y a de l'hommerie dans l'église. Puis, fait que ça dépend un petit peu de l'attitude des gens. D'accord? Si la personne est très condescendante, puis elle dit, moi, j'irai jamais dans l'église parce que c'est une institution, puis il y a plein d'hommeries là-dedans, puis il y a plein de pécheurs là-dedans, tu sais. Puis c'est des hypocrites, tu sais. J'aimais bien la réponse de Mark Dever. Mark Dever, il disait à une personne comme ça, il disait, t'as raison, puis il y a toujours la place pour une personne de plus comme ça. Fait que, tu sais, si la personne est condescendante, tu dis les choses comme elles sont parce qu'elle est en train de dire que si elle avait une église, ça serait différent. Mais je pense qu'avec quelqu'un qui se pose des questions vraiment, tu vois, qui est scandalisé par plusieurs éléments de l'histoire de l'Église, moi, je leur dis, regarde, ma femme me connaît. Si c'est ma vie qui résumait l'histoire de l'Église, elle dirait qu'il y a des moments vraiment tristes. L'Église ressemble à un chrétien. C'est ça. Et je pense qu'il faut être humble puis reconnaître. Oui, brièvement. Oui, oui. On va en parler quand même, là. Oui. Alors, ça, c'est pour notre deuxième leçon, et on commence la troisième. Si vous êtes arrivé après et que vous n'avez pas pris les feuilles de notes, il y a des feuilles de notes, je crois, dans chacun des deux coins, s'il en reste. S'il n'en reste pas, bien, vous pourrez juste nous en informer, puis on en fera plus la semaine prochaine. On va simplement introduire, présenter le changement majeur qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église en 312 avec la conversion ou la pseudo-conversion de Constantin, d'accord? Donc, l'Église est encore illégale. C'est encore une Église marginale, souvent underground, oui. Je vais répondre à ta question dans quelques instants. Oui. En 312, il y a un changement majeur qui va venir affecter l'histoire de l'Église pour 13 siècles à peu près. D'accord? Et qui affecte encore l'histoire de l'Église parce qu'aujourd'hui, par exemple, la question de Wemba était étroitement reliée à une Église institutionnelle. D'accord? Et ce qui va se passer en 312 va venir donner le ton. Ça va être une bénédiction énorme pour l'Église et probablement une malédiction en même temps, d'accord? Parce que ça va causer beaucoup de problèmes par la suite. En 312, l'Empire romain n'est pas entièrement unifié. Il y a des divisions dans l'Empire et il y a un leader qui s'appelle Constantin qui se prépare à aller affronter Maxence sur le champ de bataille. C'est son dernier rival pour qu'il puisse prendre la possession du trône. Les circonstances même de sa conversion sont assez bizarres pour des gens de notre époque, d'accord? Il faut vraiment essayer d'être dans l'époque de la... En tout cas, c'est particulier. Alors, il est sur le champ de bataille, et plus tard, Constantin va raconter que cette nuit-là, précédant la bataille, avant d'aller se coucher, il a décidé de faire une prière, et il a prié le Dieu suprême de l'univers. En faisant ça, il est en train de prier le Dieu des chrétiens, d'accord? Un seul Dieu qui règne sur tout l'univers. Donc, il a prié le Dieu suprême de l'univers de venir à son secours et de lui donner cette victoire dans cette bataille. Plus tard, il va raconter que cette nuit-là, Jésus lui est apparu. Il a eu une vision, d'accord? Et puis, Jésus lui a donné un signe et lui dit, « Par ce signe, tu vas aller chercher la victoire et je vais t'accompagner dans la bataille. » Le lendemain, Constantin va avoir la victoire, va battre son opposant, son opposant va être mis à mort, et suite à ça, Constantin va jurer de servir et d'honorer jusqu'à la fin de ses jours le Dieu suprême de l'univers, le Dieu des chrétiens. D'accord? Fait que, tu sais, circonstances particulières de conversion, c'est un. J'en ai pas beaucoup ici, je suis content des récits semblables, mais c'est son histoire à lui. Et donc, l'année suivante, Constantin va émettre l'édit de Milan qui va donner le droit aux chrétiens de pratiquer leur religion complètement. Toute leur adoration, tout ça, ils vont pouvoir être légaux en le pratiquant. L'édit de Milan ordonne de leur restaurer leur propriété qui leur avait été enlevée, de leur restaurer leur bâtiment d'église qui leur avait été enlevé, leur donne un droit à une compensation financière pour les pertes qu'ils ont eues pendant les persécutions. Il a permis aux chrétiens de venir servir dans le gouvernement romain à ce moment-là. Et honnêtement, les historiens sont pas capables de se prononcer à savoir si Constantin s'est vraiment converti ou non. D'accord? Tout le monde est divisé. Il semblait y avoir autant de bonne foi. Il y a des indices clairs qui semblaient être sincères dans sa démarche, puis d'autres moments où ça semble vraiment être un jeu politique qu'il est en train de faire. Comme je l'ai mentionné, dès qu'il y avait des repos au niveau des persécutions, dès que l'Église arrêtait d'être persécutée, l'Église prospérait très, très rapidement. Quand je dis prospérait, là, je parle pas de finances, là, je parle qu'on se multipliait, on faisait des disciples énormément dans l'Empire. Et donc, Constantin a pu faire ça simplement par opportunisme politique, s'assurer d'avoir l'appui d'une grande, grande force dans l'Empire. C'est vraiment difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que Constantin n'a jamais bien compris toutes les doctrines du christianisme. Il y en a qu'il n'a pas bien saisi, fait que ça reste clair, parce qu'il s'est mêlé beaucoup de théologie. Par exemple, il ne permettait pas qu'on adore son image dans le temple. Vous savez que l'empereur mettait son image dans le temple et on devait adorer l'empereur. Et tout citoyen romain devait adorer l'empereur, il pouvait avoir toutes ses autres divinités, mais devait adorer l'empereur. Lui, il a dit non, j'enlève mon image de là, vous n'allez pas adorer l'empereur. Mais par contre, il a permis certains cultes impériaux et lui-même a continué à pratiquer certains cultes païens jusqu'à la fin de sa vie. Fait que c'est assez ordinaire pour un chrétien. Il a maintenu, donc il n'a pas demandé à ce qu'on chasse les images des divinités païennes sur les pièces de monnaie. Alors, il y avait des pièces de monnaie qui étaient... peut-être la nuance, la distinction que je vais faire, c'est... Si nous, on avait été avec notre vision des choses, si on avait été présent à l'époque à la place de Constantin, probablement qu'on n'aurait pas dit « Tout le monde doit pratiquer le christianisme. » D'accord? On aurait proclamé une liberté de religion parce qu'on croit que chacun doit se convertir de lui-même dans un cheminement personnel. Donc, ça aurait été une chose pour Constantin de dire « Moi, je me suis converti. Je veux que le christianisme soit légal, qu'ils aient des droits et que chacun choisisse la foi qu'il veut prendre. » Un peu comme Josué dans le texte que je vous citais il y a 2-3 semaines. D'accord? Mais c'est une autre chose comme chef de l'État de décider que les pièces de monnaie vont être frappées avec des divinités païennes. D'accord? Ça, c'est une autre affaire, par exemple. Parce que là, ça relève vraiment de l'État et des décisions que lui prend. Il aurait pu décider d'enlever tout élément religieux. Ça aurait été vraiment une pensée séculière là, qui n'existait pas à l'époque. Là. Mais c'était un choix quand même de laisser ça comme ça. Et par exemple, sa divinité païenne préférée, c'est le soleil, qu'il a gardé jusqu'à la fin. Certains disent « Ah, c'est parce qu'il voyait Christ comme le soleil. » On essaie de comprendre, mais c'est pas clair. Est-ce qu'on a parlé de l'arianisme? On n'a pas parlé de l'arianisme encore. Hein? OK, il faut qu'on en parle la semaine prochaine, juste pour que je situe certaines choses avec Arius. On va revenir sur ça. Mais Constantin a oscillé à plusieurs reprises entre l'arianisme et la foi orthodoxe. L'arianisme, simplement mentionné ceci, ne reconnaissait pas la divinité de Christ. D'accord? Arius ne reconnaissait pas que Christ est Dieu. Et donc, Constantin va se promener dans un camp et dans l'autre une bonne partie de sa vie. C'était un homme qui était très colérique, c'était un homme qui était très dominant. Il a fait mettre à mort son épouse et son fils pour 2 charges d'adultère. C'était pas clair que les accusations étaient vraies. Constantin a refusé d'être baptisé jusqu'à son lit de mort. Probablement, ceux qui essaient d'analyser, probablement qu'il n'a pas voulu se placer sous l'autorité de l'Église pour pas que l'Église prenne le contrôle sur l'Empire. Et donc, il a refusé de se faire baptiser jusque-là. Et c'est juste vers la fin de sa vie que l'évêque Théodosius va réussir à... Excusez-moi, je ne vais pas vous indiquer. Non, c'est plus tard, c'est Théodosius qui va ordonner la destruction des temples païens. Constantin s'est servi de son pouvoir pour régler des questions, des conflits dans l'Empire, au niveau de l'Église. Et donc, il va convoquer des conciles. Et ça, c'est une des bonnes choses qu'il a fait. Il a réussi à régler certaines questions. La semaine prochaine, on va voir ensemble les conciles. Puis en même temps, c'est lui qui a commencé à mettre en place l'idée que il devait y avoir une autorité sur toute l'Église et que cette autorité-là devait être liée à l'autorité de l'Empire. Oui. Non, c'est Constantin. Ah, c'est possible. Faudrait que je vérifie. Monsieur nous dit qu'il s'est fait baptiser par un évêque arien à la fin. C'est possible, faudrait que je vérifie. Ce qui serait assez ordinaire, merci. Alors, je termine avec ceci, d'accord? Puis la semaine prochaine, on regarde les conciles. Grâce ou à cause de Constantin, le christianisme est devenu une norme culturelle. D'accord? Le bon côté de tout ça, c'est que le christianisme devient légal. Donc, on peut se mettre à évangéliser tout le temps, n'importe où, sans risquer de perdre la tête, littéralement, ou d'être persécuté ou quoi que ce soit. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté de ça, c'est qu'évidemment, si l'empereur est chrétien, peut-être la meilleure chose que tu peux faire, si tu veux gravir les échelons du pouvoir, c'est de devenir chrétien. Hein? Ça a du bon sens. Et donc, c'est là que la corruption commence à rentrer de manière très évidente à l'intérieur de l'Église. On commence à, dans les siècles qui vont suivre, on va commencer à acheter des sièges comme évêque. On va commencer à acheter des postes. Mon fils Bastien, je veux qu'il ait un bon avenir, j'ai beaucoup d'argent, j'ai quelques options. Est-ce que je peux réussir à le placer comme un gouverneur d'une province? Peut-être que je n'ai pas les moyens pour ça. Peut-être que je peux y acheter un poste d'évêque, par exemple. Et je pourrais le faire nommer évêque à telle place, d'accord? Et donc, il commence à avoir ces jeux-là très, très, très politiques qui sont présents. Même parmi ceux-là, il y en a qui sont vraiment chrétiens, d'accord? Et donc, ça se peut que mon fils soit vraiment chrétien, puis que je lui achète un poste d'évêque, puis qu'il fasse plein de bonnes choses à travers ça, parce qu'il enseigne la vérité. Ça ne devrait pas être comme ça que ça se passe, mais ça se peut que ça se passe comme ça. Mais bien souvent, ce n'était pas le cas et c'était des jeux de pouvoir. Et donc, avec l'avènement de Constantin, le christianisme devient une norme culturelle, une norme qui va s'imposer. Éventuellement, l'Empire romain va devenir un empire chrétien. On va voir ensemble la semaine prochaine à quel point ça peut devenir dévastateur. Mais c'est juste lorsqu'on va arriver à la réforme au 16e siècle que les chrétiens vont saisir l'idée qui est assez évidente avec Jésus, que l'État et l'Église doivent être deux choses séparées. D'accord? L'État et l'Église doivent être séparés et l'Église n'est pas la place où on essaie de faire de la politique au sens propre du terme, c'est-à-dire d'influencer quelle direction on va donner dans les élections, qui on va mettre en place, des choses comme ça. C'est pas la place dans l'Église. La réforme va nous apprendre ça. Ça va se passer au 16e siècle. Alors, il va y avoir une longue période où l'Église comme institution va être très près du pouvoir. Et c'est là qu'on a les histoires les plus scandaleuses au niveau de l'histoire de l'Église. On va terminer ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux te remercier pour ta fidélité. Seigneur, lorsque je lis l'histoire de ton Église, les périodes glorieuses et les périodes sombres, Seigneur, je suis émerveillé par ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur, pour préserver l'Église ici de l'espoir qui a 50 ans d'histoire maintenant, Seigneur. Et il y a eu des moments majestueux avec des conversions, de beaux récits. On en a encore, Seigneur. Puis il y a eu des moments plus sombres, plus tristes, Seigneur, où on a vu l'Église ébranlée avec des questions doctrinales, ébranlée avec des conflits liés au leadership, des choses comme ça. Mais Seigneur, toute l'histoire de l'Église me témoigne ta même fidélité pour bâtir malgré les erreurs, malgré nos errements, Seigneur. Tu nous l'avais annoncé dans tes évangiles. Tu nous avais annoncé qu'il y aurait des moments comme ça. L'apôtre Paul nous avait mis en garde contre cela, Seigneur. Et tu es fidèle et tu construis. Et je veux être reconnaissant, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui ont porté la foi à travers ces siècles, les milliers de chrétiens qui ont accepté de mourir martyrs pour défendre l'Évangile, ce qui a produit tellement, Seigneur, de conversion, parce que les gens voyaient cette force de conviction. Alors, je te prie, Seigneur, de nous aider à suivre ces modèles dans leur foi, dans leur intégrité, Seigneur, et à nous attacher aux Saintes Écritures pour s'attacher à la vérité, Seigneur, à ne pas errer dans toutes sortes de philosophies, toutes sortes de raisonnements personnels, Seigneur. Merci pour ta bonté. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Continue la semaine prochaine, on va voir ensemble les conciles et les credos.